Bonjour, c'est Dekistas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes politologue au CRISP, rédacteur en chef du courrier hebdomadaire. Alors, hier, sur Radio Judaïka, nous parlions de la formation du gouvernement bruxellois. Nous nous étions arrêtés au milieu de cet entretien. Nous avions parlé du côté francophone. Aujourd'hui, nous allons parler du côté néerlandophone et puis de l'impact des élections communales du 13 octobre sur cette formation du gouvernement. Alors, vous nous aviez expliqué le fonctionnement du côté francophone de ce gouvernement bruxellois. Qu'en est-il du côté néerlandophone?
Alors, du côté néerlandophone, le gouvernement doit également, politiquement en tout cas, reposer sur une majorité dans le groupe linguistique néerlandais du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Alors, donc, vous savez, le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est divisé en deux groupes linguistiques. Le groupe linguistique français, dont on a parlé hier et aujourd'hui, nous avons parlé du groupe linguistique néerlandais, qui, lui, compte 17 membres. Et donc, pour avoir une majorité dans ce groupe linguistique, vous devez parvenir à former une coalition d'au moins 9 députés. Alors, ici, la difficulté qui se présente aux négociateurs flamands, c'est une configuration tout à fait inattendue et inédite qui est le résultat d'une nouvelle liste, d'un nouveau parti politique qui s'appelle la Team Fouad Haïdar, qui est très récente, hein, elle est née au début de l'année 2024. Et bien que toute nouvelle sur l'échiquier politique, elle est parvenue à, on peut le dire, un véritable exploit, à savoir qu'elle a remporté pas moins de 3 sièges sur les 17 que compte donc le groupe flamand au Parlement bruxellois. Ce qui complique fortement les négociations parce qu'en fait, les autres partis politiques ne veulent pas s'allier avec la team Fouad Haïdar. Alors, Fouad Haïdar, c'est un personnage sans aucun doute haut en couleur, très populaire dans la région de Bruxelles-Capitale, parmi la communauté musulmane. Il a d'ailleurs axé sa campagne électorale sur des sujets à connotation communautariste et religieuse. Et il a notamment procédé par le biais de ses nombreux contacts. On sait qu'il a notamment mené campagne beaucoup sur WhatsApp. Et ce, tant dans la communauté musulmane, donc néerlandophone, que dans la communauté musulmane francophone. Hein, on voit qu'il y a de nombreux francophones qui ont voté pour la liste. Vous savez que quand vous êtes bruxellois et que vous votez aux élections régionales, on vous demande de choisir entre les listes francophones et les listes néerlandophones. Et on voit que cette année-ci, il y a une beaucoup plus grande proportion de Bruxellois qui ont demandé à se voir présenter les listes francophones, néerlandophones, pardon, je recommence, 1, 2. On voit qu'il y a une beaucoup plus grande proportion d'électeurs bruxellois qui ont demandé à se voir présenter les listes néerlandophones. Eh bien, c'est parce que ce sont des francophones musulmans, pour la plupart, qui ont voulu voter pour Fouad Haïdar. Alors, ce personnage est un peu sulfureux. Il faut savoir qu'il vient des rangs de Vorreuth, le parti socialiste flamand, qu'il a quitté avec fracas parce qu'il s'opposait sur toute une série de sujets, notamment liés à l'attitude à avoir par rapport au conflit israélo-palestinien ou au dossier de l'abattage rituel sans étourdissement. Donc, il a claqué la porte de Vorreuth, où il s'est fait mettre dehors, selon la lecture que l'on a des événements. Donc, on imagine facilement que Vorreuth le voit comme un traître et ne veut pas s'allier avec lui. Par ailleurs, les autres partis non plus ne veulent pas de lui, notamment hein, pour les prises de position, je vous l'ai dit tout à l'heure, communautaristes et religieuses. Voilà, un certain nombre de mandataires politiques ont fait explicitement référence au fait qu'ils ne voulaient pas s'allier avec la team Fouad Haïdar. Même du côté francophone, le MR par exemple, est pour cela tout à fait sur la même ligne que son parti frère, l'Open VLD. Il ne veut pas travailler avec la team Fouad Haïdar. Et donc ça veut dire que vous travaillez déjà nécessairement avec 3 députés de moins, vous n'êtes plus qu'à 14. Or, il est difficile d'envisager une coalition avec le PTB, vous retirez encore un député. Et puis, il y a ce cordon sanitaire politique qui fait que l'on ne peut pas non plus conclure de coalition avec le Vlaams Belang. Or, le Vlaams Belang, c'est 2 sièges au Parlement bruxellois. Donc, vous voyez qu'avec toutes ces exclusives, de 17 sièges à l'origine, nous n'en avons plus que 11 possibles pour former une coalition. Et ce sont nécessairement, essentiellement des petits partis. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais le premier parti néerlandophone à Bruxelles, c'est Groen. On voit ici une configuration très différente de ce que l'on observe en France, en Flandre. En Flandre, Groen est une espèce de petit pousset de la politique, alors qu'à Bruxelles, du côté néerlandophone, il est le premier parti, il a pas moins de 4 sièges. Donc, il lui faut en trouver 5 pour former une majorité. 5 ou plus. Parce qu'il est bien entendu que si vous arrivez tout rigrac à 9 sièges sur 17, vous êtes toujours soumis aux aléas de la vie politique au cours de législature. Perdre un siège pour une raison ou un autre vous condamne à ne plus être majoritaire, mais minoritaire. Mais au minimum, il faut trouver, pour Groen, qui a la main, c'est Elke van den Brand, qui a été considérée unanimement, vu le succès de son parti politique, comme la formatrice du gouvernement bruxellois en son aile néerlandophone. Groen doit donc trouver 5 députés, une majorité pour former une majorité avec elle. Et donc, la configuration que Elke van den Brand a favorisée au début des négociations, c'était une coalition avec l'OpenVLD, 2 sièges, Voreut, 2 sièges, et le CDNV, 1 siège. On arrivait donc à 4 plus 2 plus 2 plus 1, tout pile 9. Mais on voit que ça coince énormément de ce côté-là. Malgré les différents contacts qui ont déjà été pris, Elke van den Brand n'est pas encore parvenu à former une majorité. Où est-ce que ça coince? Essentiellement du côté du CDNV, qui jusqu'à présent refuse de rallier cet attelage. Alors, il met le CDNV, représenté ici à Bruxelles par Benjamin Dahl, met en avant le fait que ces 3 partenaires potentiels, Groen, l'OpenVLD et Voreut, sont les 3 partenaires sortants du gouvernement bruxellois. Il constituait l'aile néerlandophone du gouvernement bruxellois, Verwoerd 3. Et c'est un gouvernement, évidemment, que le CDNV, étant dans l'opposition, a critiqué. Et il dit qu'il ne veut pas servir d'appoint pour sauver cette majorité avec laquelle, sur le plan politique, il n'est pas du tout d'accord. Il n'a pas du tout la même longueur d'onde. Il ne partage pas les options. En plus, il y a un problème très concret. C'est qu'au gouvernement bruxellois, pour les néerlandophones, vous n'avez que 3 postes à vous partager. 2 de ministre et 1 de secrétaire d'État. C'est ce qui est inscrit dans la loi spéciale de 1989 qui règle les institutions bruxelloises. Alors, ce n'est pas un véritable problème juridique. La loi de 1989 dit bien que l'on peut augmenter le nombre de ministres à condition de conserver un équilibre linguistique entre les francophones et les néerlandophones. Donc, la règle, c'est qu'il doit y avoir un ministre-président dont la loi ne précise pas le sexe linguistique, mais par tradition, c'est toujours un francophone. Puis, dans la loi, il y a 2 ministres néerlandophones, 2 ministres francophones, puis 2 secrétaires d'État francophones et 1 secrétaire d'État néerlandophone. Il y aurait moyen, selon la loi, d'augmenter ce nombre, et on ne doit même pas passer par la Chambre des représentants. C'est le Parlement bruxellois qui pourrait augmenter ce nombre de ministres. Seulement, l'EMR n'en veut pas. Et d'autres partenaires francophones, mais en particulier l'EMR, qui a été dans l'opposition pendant de nombreuses années, qui là revient au pouvoir en région bruxelloise, qui a la possibilité d'avoir le poste de ministre-président. Il ne veut surtout pas commencer cette nouvelle législature bruxelloise en prenant une mesure qui consisterait à augmenter le nombre de ministres, et donc à être en porte-à-faux avec son discours, qui est qu'il faut réduire le nombre de mandataires politiques et mieux utiliser les deniers publics. Donc voilà, les néerlandophones sont condamnés à s'entendre et à trouver une solution au minimum à 4 partis, mais pour ne se partager que 3 postes. Et donc on voit tout de suite... Oui, je vous écoute.
On arrive presque à la fin de notre entretien. Okay. J'aimerais avec vous aborder les conséquences en 2-3 minutes, si possible, oui, des élections communales du 13 octobre.
Alors ça, c'est aussi une configuration tout à fait particulière. En 2024, c'est la première année où nous avons toutes les élections politiques la même année. Et on a d'abord eu les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires en juin. Et maintenant, donc le 13 octobre, il y aura les élections communales et, si vous habitez en Wallonie ou en Flandre, également provinciales. Alors, il faut se rendre compte que ça pose une difficulté politique pour les partis qui négocient des accords de majorité. Bon, d'une part, vous devez être sur deux fronts en même temps. Donc, vous devez diviser vos forces. Une partie qui va mener les négociations post-électorales, celle du 9 juin pour former des gouvernements, et puis une équipe qui va mener campagne pour les élections communales. Bon, vous rendez bien compte que quand je divise ainsi en deux équipes, c'est totalement factice. Ce sont essentiellement les mêmes personnes qui mènent ces deux campagnes. Donc, évidemment, c'est difficile de consacrer du temps pour la formation des gouvernements, alors que vous êtes en campagne électorale. Or, on sait que pour de nombreux partis, voire tous en région bruxelloise, l'ancrage local est quelque chose d'extrêmement important du point de vue de leur fonctionnement, du point de vue de leur histoire et aussi de leur point de vue de leur poids politique, même au point de vue régional durant toute la législature. Donc voilà, il y a cette division des forces. Et puis voilà, il faut se rendre compte qu'il est difficile de se présenter à l'électeur ici pour les élections communales si vous avez derrière vous un accord de majorité où nécessairement vous aurez fait des concessions, vous aurez fait des compromis qui peuvent être vus comme des compromissions aux yeux de l'électeur. En particulier à Bruxelles, et non, c'est vrai aussi en Flandre et en Wallonie, bien entendu, mais en particulier à Bruxelles, où on est dans le cas d'une ville-région et nécessairement les thématiques régionales et communales s'interpénètrent. Hein. Pensez notamment à la mobilité. L'opposition au plan Good Move, ben, le plan Good Move, il se traduit en 19 plans communaux. Donc, vous voyez tout de suite les interconnexions qu'il y a entre les problématiques régionales et communales, et donc cette difficulté pour les partis d'accepter de faire des compromis au niveau régional, alors qu'ils savent que quelques jours, quelques semaines plus tard, ils vont se présenter devant les électeurs pour les élections communales.
Cédric Istas, je rappelle que vous êtes politologue au CRISP ainsi que rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Merci à vous.